Le consul général fit une pause. « Par un certain lundi, reprit-il, le hasard voulut que M. le président de Granville et M. de Sérisy, alors vice-président du Conseil d'État, fussent venus tenir une séance chez le comte Octave. Ils formaient, à eux trois, une commission de laquelle j'étais le secrétaire. Le comte m'avait déjà fait nommer auditeur au Conseil d'État. Tous les éléments nécessaires à l'examen de la question politique, secrètement soumise à ces messieurs, se trouvaient sur l'une des longues tables de notre bibliothèque. Messieurs de Granville et de Sérisy s'en étaient remis au comte Octave pour le dépouillement préparatoire des documents relatifs à leur travail. Afin d'éviter le transport des pièces chez Monsieur de Sérisy, président de la commission, il était convenu qu'on se réunirait d'abord rue Payenne. Le cabinet des Tuileries attachait une grande importance à ce travail, qui pesa sur moi principalement, et auquel je dus, dans le cours de cette année, ma nomination de maître des requêtes. Quoique les comtes de Granville et de Sérisy, dont les habitudes ressemblaient fort à celles de mon patron, ne dînassent jamais hors de chez eux, nous fûmes surpris, discutant encore à une heure si avancée, que le valet de chambre me demanda pour me dire « Messieurs les curés de Saint-Paul et des Blancs-Manteaux sont au salon depuis 2 heures. » Il était 9 heures. « Vous voilà, messieurs, obligés de faire un dîner de curés, » dit en riant le comte Octave à ses collègues. « Je ne sais pas si Granville surmontera sa répugnance pour la soutane. »« C'est selon les curés. » Oh, l'un est mon oncle et l'autre est l'abbé Gaudron, lui répondis-je. Soyez sans crainte, l'abbé Fontanon n'est plus vicaire à Saint-Paul. Eh bien, dînons, répondit le président Grinville. Un dévot m'effraie, mais je ne sais personne de gai comme un homme vraiment pieux. Et nous nous rendîmes au salon. Le dîner fut charmant. Les hommes réellement instruits, les politiques à qui les affaires donnent et une expérience consommée et l'habitude de la parole sont d'adorables conteurs quand ils savent compter. Il n'est pas de milieu pour eux, ou ils sont lourds, ou ils sont sublimes. À ce charmant jeu, le prince de Metternich est aussi fort que Charles Nodier. Taillé à facettes comme le diamant, la plaisanterie des hommes d'État est nette, étincelante et pleine de sens. Sûr de l'observation des convenances au milieu de ces 3 hommes supérieurs, mon oncle permit à son esprit de se déployer. Esprit délicat, d'une douceur pénétrante, et fin comme celui de tous les gens habitués à cacher leurs pensées sous la robe. Comptez aussi qu'il n'y eut rien de vulgaire ni d'oiseux dans cette causerie, que je comparerais volontiers, comme effet sur l'âme, à la musique de Rossini. L'abbé Gaudron était, comme le dit M. Granville, un Saint-Pierre plutôt qu'un Saint-Paul, un paysan plein de foi, carré de base comme de hauteur, un bœuf sacerdotal dont l'ignorance, en fait de monde et de littérature, anima la conversation par des étonnements naïfs et par des interrogations imprévues. On finit par causer d'une des plaies inhérentes à l'état social et qui vient de nous occuper, de l'adultère. Mon oncle fit observer la contradiction que les législateurs du Code, encore sous le coup des orages révolutionnaires, y avaient établi entre la loi civile et la loi religieuse, et d'où, selon lui, venait tout le mal. « Pour l'Église, dit-il, l'adultère est un crime. Pour vos tribunaux, ce n'est qu'un délit. L'adultère se rend en carrosse à la police correctionnelle, au lieu de monter sur les bancs de la cour d'assises. Le Conseil d'État de Napoléon, pénétré de tendresse pour la femme coupable, a été plein d'impéritie. Ne fallait-il pas accorder en ceci la loi civile et la loi religieuse, envoyer au couvent pour le reste de ses jours, comme autrefois, l'épouse coupable ? Au couvent ! Reprit M. de Sérisy. Il aurait fallu d'abord créer des couvents, et dans ce temps, on convertissait les monastères en casernes. Puis, y pensez-vous, monsieur l'abbé? Donner à Dieu ce dont la société ne veut pas ? Dit le comte de Granville, vous ne connaissez pas la France. On a dû laisser au mari le droit de se plaindre. Eh bien, il n'y a pas 10 plaintes en adultère par an. Monsieur l'abbé prêche pour son saint, car c'est Jésus-Christ qui a créé l'adultère, reprit le comte Octave. En Orient, berceau de l'humanité, la femme ne fut qu'un plaisir, et il fut alors une chose. On ne lui demandait pas d'autre vertu que l'obéissance et la beauté. En mettant l'âme au-dessus du corps, la famille européenne moderne, fille de Jésus, a inventé le mariage indissoluble. Elle en a fait un sacrement. Ah ! L'Église en reconnaissait bien toutes les difficultés ! S'écria M. de Granville. Cette institution a produit un monde nouveau, reprit le comte en souriant. Mais les mœurs de ce monde ne seront jamais celles des climats où la femme est nubile à 7 ans et plus que vieille à 25. L'Église catholique a oublié les nécessités d'une moitié du globe. Parlons donc uniquement de l'Europe. La femme nous est-elle inférieure ou supérieure? Telle est la vraie question par rapport à nous. Si la femme nous est inférieure, en l'élevant aussi haut que l'a fait l'Église, il fallait de terribles punitions à l'adultère. Aussi, jadis, a-t-on procédé ainsi. Le cloître ou la mort, voilà toute l'ancienne législation. Mais depuis, les mœurs ont modifié les lois, comme toujours. Le trône a servi de couche à l'adultère, et les progrès de ce joli crime ont marqué l'affaiblissement des dogmes de l'Église catholique. Aujourd'hui, là où l'Église ne demande plus qu'un repentir sincère à la femme en faute, la société se contente d'une flétrissure au lieu d'un supplice. La loi condamne bien encore les coupables, mais elle ne les intimide plus. Enfin, il y a 2 morales, la morale du monde et la morale du code. Là où le code est faible, je le reconnais avec notre cher abbé, le monde est audacieux et moqueur. Il est peu de juges qui ne voudraient avoir commis le délit contre lequel ils déploient la foudre assez bonasse de leurs considérants. Le monde, qui dément la loi, et dans ses fêtes, et par ses usages, et par ses plaisirs, est plus sévère que le code et l'Église. Le monde punit la maladresse après avoir encouragé l'hypocrisie. L'économie de la loi sur le mariage me semble à reprendre de fond en comble. Peut-être la loi française serait-elle parfaite si elle proclamait l'exhérédation des filles. Nous connaissons à nous trois la question à fond, dit en riant le comte de Granville. Moi, j'ai une femme avec laquelle je ne puis pas vivre. Sérisy a une femme qui ne veut pas vivre avec lui. Toi, Octave, la tienne t'a quittée. Nous résumons donc à nous trois tous les cas de conscience conjugale. Aussi composerons-nous sans doute la commission, si jamais on revient au divorce. La fourchette d'Octave tomba sur son verre, le brisa l'assiette. Le comte, devenu pâle comme un mort, jeta sur le président de Granville un regard foudroyant par lequel il me montrait et que je surpris. Pardon, mon ami, je ne voyais pas Maurice, reprit le président de Granville. Sérisy et moi, nous avons été tes complices après t'avoir servi de témoin. Je ne croyais donc pas faire une indiscrétion en présence de ces 2 vénérables ecclésiastiques. Monsieur de Sérisy changea la conversation en racontant tout ce qu'il avait fait pour plaire à sa femme sans y parvenir jamais. Ce vieillard conclut à l'impossibilité de réglementer les sympathies et les antipathies humaines. Il soutint que la loi sociale n'était jamais plus parfaite que quand elle se rapprochait de la loi naturelle. Or, la nature ne tenait aucun compte de l'alliance des âmes. Son but était atteint par la propagation de l'espèce. Donc, le code actuel avait été très sage en laissant une énorme latitude au hasard. L'exhérédation des filles, tant qu'il y aurait des héritiers mâles, était une excellente modification, soit pour éviter l'abâtardissement des races, soit pour rendre les ménages plus heureux en supprimant des unions scandaleuses, en faisant rechercher uniquement les qualités morales et la beauté. Mais, ajouta-t-il en levant la main par un geste de dégoût, le moyen de perfectionner une législation, quand un pays a la prétention de réunir 700 ou 800 législateurs. Après tout, reprit-il, si je suis sacrifié, j'ai un enfant qui me succédera. En laissant de côté toute question religieuse, reprit mon oncle, je ferai observer à votre excellence que la nature ne nous doit que la vie et que la société nous doit le bonheur. Êtes-vous père ? Lui demanda mon oncle. Et moi, ai-je des enfants ? Dit d'une voix creuse le comte Octave, dont l'accent causa de telles impressions que l'on ne parla plus ni femme ni mariage. Quand le café fut pris, les deux comtes et les deux curés s'évadèrent en voyant le pauvre Octave tombé dans un accès de mélancolie qui ne lui permit pas de s'apercevoir de ses disparitions successives. Mon protecteur était assis sur une bergère au coin du feu, dans l'attitude d'un homme anéanti. « Vous connaissez le secret de ma vie, » me dit-il en s'apercevant que nous nous trouvions seuls. Après 3 ans de mariage, un soir, en rentrant, on m'a remis une lettre par laquelle la comtesse m'annonçait sa fuite. Cette lettre ne manquait pas de noblesse, car il est dans la nature des femmes de conserver encore des vertus en commettant cette faute horrible. Aujourd'hui, ma femme est censée s'être embarquée sur un vaisseau naufragé. Elle passe pour morte. Je vis seule depuis 7 ans. Assez pour ce soir, Maurice. Nous causerons de ma situation quand je me serai accoutumée à l'idée de vous en parler. Quand on souffre d'une maladie chronique, ne faut-il pas s'habituer au mieux ? Souvent, le mieux paraît être une autre phase de la maladie. J'allais me coucher tout troublé, car le mystère, loin de s'éclaircir, me parut de plus en plus obscur. Je pressentis un drame étrange en comprenant qu'il ne pouvait y avoir rien de vulgaire entre une femme que le comte avait choisie et un caractère comme le sien. Enfin, les événements qui avaient poussé la comtesse à quitter un homme si noble, si aimable, si parfait, si aimant, si digne d'être aimé, devait être au moins singulier. La phrase de M. de Granville avait été comme une torche jetée dans les souterrains sur lesquels je marchais depuis si longtemps. Et quoique cette flamme les éclairât imparfaitement, mes yeux pouvaient remarquer leur étendue. Je m'expliquais les souffrances du comte sans connaître ni leur profondeur ni leur amertume. Ce masque jaune, ses tempes desséchées, ses gigantesques études, ses moments de rêverie, les moindres détails de la vie de ce célibataire marié, prirent un relief lumineux pendant cette heure d'examen mental qui est comme le crépuscule du sommeil et auquel tout homme de cœur se serait livré, comme je le fis. Oh, combien j'aimais mon pauvre patron! Il me parut sublime. Je lus un poème de mélancolie. J'aperçus une action perpétuelle dans ce cœur taxé par moi d'inertie. Une douleur suprême n'arrive-t-elle pas toujours à l'immobilité? Ce magistrat qui disposait de tant de puissance, s'était-il vengé? Se repaissait-il d'une longue agonie? N'était-ce pas quelque chose à Paris qu'une colère toujours bouillante pendant 10 ans? Que faisait Octave depuis ce grand malheur? Car cette séparation de 2 époux est le grand malheur dans notre époque où la vie intime est devenue, ce qu'elle n'était pas jadis, une question sociale. Nous passâmes quelques jours en observation, car les grandes souffrances ont leur pudeur. Mais enfin, un soir, le comte me dit d'une voix grave : « Restez. » voici quel fut à peu près son récit. Mon père avait une pupille, riche, belle et âgée de 16 ans, au moment où je revins du collège dans ce vieil hôtel. Élevée par ma mère, Honorine s'éveillait alors à la vie. Pleine de grâce et d'enfantillage, elle rêvait le bonheur comme elle eût rêvé d'une parure, et peut-être le bonheur était-il pour elle la parure de l'âme. Sa piété n'allait pas sans des joies puériles, car tout, même la religion, était une poésie pour ce cœur ingénu. Elle entrevoyait son avenir comme une fête perpétuelle. Innocente et pure, aucun délire n'avait troublé son sommeil. La honte et le chagrin n'avaient jamais altéré sa joue ni mouillé ses regards. Elle ne cherchait même pas le secret de ses émotions involontaires par un beau jour de printemps. Enfin, elle se sentait faible, destinée à l'obéissance, et attendait le mariage sans le désirer. Sa rieuse imagination ignorait la corruption, peut-être nécessaire, que la littérature inocule par la peinture des passions. Elle ne savait rien du monde et ne connaissait aucun des dangers de la société. La chère enfant avait si peu souffert qu'elle n'avait pas même déployé son courage. Enfin, sa candeur lui fait marcher sans crainte au milieu des serpents, comme l'idéale figure qu'un peintre a créée de l'innocence. Jamais front ne fut plus serein et à la fois plus riant que le sien. Jamais il n'a été permis à une bouche de dépouiller de leur sens des interrogations précises avec tant d'ignorance. Nous vivions comme deux frères. Au bout d'un an, je lui dis, dans le jardin de cet hôtel, devant le bassin aux poissons, en leur jetant du pain, « Veux-tu nous marier? Avec moi, tu feras tout ce que tu voudras, tandis qu'un autre homme te rendrait malheureuse. »« Maman, » dit-elle à ma mère qui vint au-devant de nous, « il est convenu entre Octave et moi que nous nous marierons. »«
À 17 ans ?» répondit ma mère.
« Non, vous attendrez 18 mois. Et si dans 18 mois vous vous plaisez, eh bien, vous êtes de naissance, de fortunes égales, vous ferez à la fois un mariage de convenance et d'inclination. » Quand j'eus 20 ans et Honorine 19, nous nous mariâmes. Notre respect pour mon père et ma mère, vieillards de l'ancienne cour, nous empêcha de mettre cet hôtel à la mode, d'en changer les ameublements, et nous y restâmes, comme par le passé, en enfants. Néanmoins, j'allais dans le monde. J'initiais ma femme à la vie sociale et je regardais comme un de mes devoirs de l'instruire. J'ai reconnu plus tard que les mariages contractés dans les conditions d'une autre renfermaient un écueil contre lequel doivent se briser bien des affections, bien des prudences, bien des existences. Le mari devient un pédagogue, un professeur si vous voulez, et l'amour périt sous la férule qui tôt ou tard blesse. Car une épouse jeune et belle, sage et rieuse, n'admet pas de supériorité au-dessus de celle dont elle est douée par la nature. Peut-être ai-je eu des torts, peut-être ai-je eu dans les difficiles commencements d'un ménage un ton magistral, peut-être au contraire ai-je commis la faute de me fier absolument à cette candide nature et n'ai-je pas surveillé la comtesse chez qui la révolte me paraissait impossible. Hélas! On ne sait pas encore, ni en politique, ni en ménage, si les empires et les félicités périssent par trop de confiance ou par trop de sévérité. Peut-être aussi le mari n'a-t-il pas réalisé pour Honorine les rêves de la jeune fille. Sait-on, pendant les jours de bonheur, à quel précepte on a manqué? Je ne me rappelle que les masses dans les reproches que s'adressa le comte avec la bonne foi de l'anatomiste cherchant les causes d'une maladie qui échapperait à ses confrères. Mais sa clémente indulgence me parut alors vraiment digne de celle de Jésus-Christ quand il sauva la femme adultère. 18 mois après la mort de mon père, qui précéda ma mère de quelques mois dans la tombe, reprit-il après une pause, arriva la terrible nuit
où je fus surpris par la lettre d'adieu d'Honorine. Par quelle poésie ma femme était-elle séduite? Était-ce l'essence? Était-ce les magnétismes du malheur ou du génie? Laquelle de ces forces l'avait ou surprise ou entraînée? Je n'ai rien voulu savoir. Le coup fut si cruel que je restai comme hébété pendant un mois. Plus tard, la réflexion m'a dit de rester dans mon ignorance, et les malheurs d'Honorine m'ont trop appris de ces choses. Jusqu'à présent, Maurice, tout est bien vulgaire, mais tout va changer par un mot. J'aime Honorine, je n'ai pas cessé de l'adorer. Depuis le jour de l'abandon, je vis de mes souvenirs. Je reprends un à un les plaisirs pour lesquels, sans doute, Honorine fut sans goût. « Oh !» dit-il en voyant de l'étonnement dans mes yeux. « Ne me faites pas un héros, ne me croyez pas assez sot, dirait un colonel de l'Empire, pour ne pas avoir cherché des distractions. Hélas, mon enfant, j'étais ou trop jeune ou trop amoureux. Je n'ai pu trouver d'autres femmes dans le monde entier. Après des luttes affreuses avec moi-même, je cherchais à m'étourdir. J'allais, mon argent à la main, jusque sur le seuil de l'infidélité. Mais là, se dressait devant moi, comme une blanche statue, le souvenir d'Honorine. En me rappelant la délicatesse infinie de cette peau suave à travers laquelle on voit le sang courir et les nerfs palpiter, en revoyant cette tête ingénue, aussi naïve la veille de mon malheur que le jour où je lui dis « Veux-tu nous marier ?» en me souvenant d'un parfum céleste comme celui de la vertu, en retrouvant la lumière de ses regards, la joliesse de ses gestes, je m'enfuyais, comme un homme qui va violer une tombe et qui en voit sortir l'âme du mort transfigurée. Au conseil, au palais, dans mes nuits, je rêve si constamment d'Honorine qu'il me faut une force d'âme excessive pour être à ce que je fais, à ce que je dis. Voilà le secret de mes travaux. Eh bien, je ne me suis pas plus senti de colère contre elle que n'en a un père en voyant son enfant chéri dans le danger où il s'est précipité par imprudence. J'ai compris que j'avais fait de ma femme une poésie dont je jouissais avec tant d'ivresse que je croyais mon ivresse partagée. Ah, Maurice, un amour sans discernement est, chez un mari, une faute qui peut préparer tous les crimes d'une femme. J'avais probablement laissé sans emploi les forces de cet enfant, chéri comme une enfant. Je l'ai peut-être fatiguée de mon amour avant que l'heure de l'amour eût sonné pour elle. Trop jeune pour entrevoir le dévouement de la mère dans la constance de la femme, elle a pris cette première épreuve du mariage pour la vie elle-même, et l'enfant mutin a maudit la vie à mon insu, n'osant se plaindre à moi, par pudeur peut-être. Dans une situation si cruelle, elle se sera trouvée sans défense contre un homme qui l'aura violemment émue. Et moi, si sagace magistrat, dit-on, moi dont le cœur est bon mais dont l'esprit était occupé, j'ai deviné trop tard ces lois du code féminin méconnues. Je les ai lues à la clarté de l'incendie qui dévorait mon toit. J'ai fait alors de mon cœur un tribunal en vertu de la loi. Car la loi constitue un juge dans un mari. J'ai absous ma femme et je me suis condamnée. Mais l'amour prit alors chez moi la forme de la passion, de cette passion lâche et absolue qui saisit certains vieillards. Aujourd'hui, j'aime Honorine absente, comme on aime, à 60 ans, une femme qu'on veut avoir à tout prix, et je me sens la force d'un jeune homme. J'ai l'audace du vieillard et la retenue de l'adolescent. Mon ami, la société n'a que des railleries pour cette affreuse situation conjugale. Là où elle s'apitoie avec un amant, elle voit dans un mari je ne sais quelle impuissance. Elle se rit de ceux qui ne savent pas conserver une femme qu'ils ont acquise sous le poil de l'Église et par-devant l'écharpe du maire. Mais il a fallu me taire. Cérizy est heureux, Il doit à son indulgence le plaisir de voir sa femme. Il la protège, il la défend. Et comme il l'adore, il connaît les jouissances excessives du bienfaiteur qui ne s'inquiète de rien, pas même du ridicule, car il en baptise ses paternelles jouissances. « Je ne reste mariée qu'à cause de ma femme, » me disait un jour Sérizy en sortant du conseil. « Mais moi, je n'ai rien, pas même le ridicule à affronter. Moi qui ne me soutiens que par un amour sans aliment. Moi qui ne trouve pas un mot à dire à une femme du monde. Moi que la prostitution repousse. Moi, fidèle par incantation. Sans ma foi religieuse, je me serais tuée. J'ai défié l'abîme du travail, je m'y suis plongé. J'en suis sorti vivant, brûlant, ardent, ayant perdu le sommeil. Je ne puis me rappeler les paroles de cet homme si éloquent, mais à qui la passion donnait une éloquence si supérieure à celle de la tribune que, comme lui, j'avais en l'écoutant les joues sillonnées de larmes. Jugez de mes impressions quand, après une pause pendant laquelle nous essuyâmes nos pleurs, il acheva son récit par cette révélation.